France Culture.
Orthodoxie, une émission proposée par Alexis Christostalis. Chers amis, une émission aujourd'hui intitulée « La réception des pères grecs en Italie au Moyen-Âge, du 5e au 15e siècle ». Pour parler, en fait, du prestige de la langue grecque qui parcourt toute cette période, en particulier dans le domaine de la littérature chrétienne. Pour en parler, nous recevons Camille Roupettel, chargée de recherche au CNRS, qui a co-dirigé avec Bernadette Cabouret et Annick Peters-Custo un ouvrage paru sous ce même titre en 2020 aux éditions du Cerf. Camille, bonjour. Commençons, si vous voulez bien, par préciser le titre et le contenu de l'ouvrage que vous avez co-dirigé.
Bonjour cher Alexis, bonjour à toutes et à tous. Alors le titre effectivement porte le terme de père qui est assez familier mais qu'on ne sait pas toujours bien définir. La notion de père ou de père ecclésiastique est d'abord apparue en langue grecque dans l'Antiquité tardive. On est à peu près au début du 4e siècle. Et il s'agissait alors pour Eusèbe de Césarée de désigner de manière respectueuse les auteurs orthodoxes. Orthodoxes au sens de ceux qui s'inscrivent dans la voie droite, c'est-à-dire ceux qui représentent la tradition de l'Église. Ce n'est qu'un petit peu plus tard, au 6e siècle, qu'on commence à voir apparaître une première liste des pères grecs et des pères latins. En l'espèce, dans le décret de Gélas, qui est un décret pseudépigraphe, c'est-à-dire faussement attribué au pape Gélas, et donc qui va établir cette première liste canonique de 5 pères grecs et de 6 pères latins. Donc il s'agit de désigner ceux qui vont avoir un rôle particulier, important, dans la mise en place de la doctrine de l'Église et souvent relié à la période conciliaire.
Des auteurs donc dont les écrits comptent beaucoup dans l'histoire du christianisme, on va dire, et bien sûr aussi pour le dogme, on va le voir, etc. Alors, des pères grecs et des pères latins. Quand on dit grec, évidemment, c'est des gens qui s'expriment en grec, et quand on dit latin, c'est des gens qui s'expriment en latin. Alors, quelle langue parle-t-on à la période considérée là, dans les pays chrétiens et comment ces textes voyagent ? Parce que tout le monde ne parle pas grec ou latin.
Effectivement, nous sommes beaucoup intéressés dans ce livre, notamment aux traductions du grec en latin, traduction, donc réception et traduction donc des pères grecs en latin. Et ce sont d'abord les hommes qui voyagent avant les textes, c'est-à-dire que ce ne sont pas des manuscrits. On a des manuscrits grecs qui vont ensuite, pour certains, effectivement, voyager en Orient, mais pour ces premières traductions, ce sont ces hommes qui appartiennent à l'Église latine et qui vont voyager en Orient. Voyager en Orient, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ils vont partir notamment pour l'Égypte, particulièrement dans l'Oued Nahroun, qui est ce désert à proximité du Caire, qui a accueilli les premières expériences érémitiques et cénobitiques. Ça veut dire ensuite partir pour la Palestine, notamment Jérusalem, partir pour la Syrie. Et donc ces hommes qui viennent de Rome, pour certains, c'est le cas de Rufin d'Aquilée, par exemple, qui a fait ses études à Rome avant de partir une vingtaine d'années pour l'Orient, où il va rencontrer un certain nombre de personnages qui vont être tout à fait formateurs dans son histoire, notamment Jérôme, et qui vont traduire in situ ces textes de ces auteurs grecs en latin. Et donc la langue, la koiné, on parlait très certainement effectivement, notamment en grec, hein, quand on était au Proche-Orient, mais il faut bien comprendre que les Grecs dont nous parlons là, alors on va parler de Basile un petit peu tout à l'heure, mais ce ne sont pas que les Grecs de l'Empire byzantin qui sont liés effectivement à Byzance, mais ce sont aussi les Grecs, ou ceux qu'on va appeler les Melkites, qui partageront la foi chalcédonienne à partir du 5e siècle avec les Grecs de Constantinople, et qui sont installés en Syrie, en Palestine, en Égypte. Et d'ailleurs, la communauté grecque en Italie, puisqu'on a aussi en Italie de nombreux monastères grecs et de nombreux fidèles de rite grec, ce ne sont pas pour la plupart des gens qui sont liés à Byzance, mais ce sont des orientaux qui viennent d'Égypte, de Syrie, de Palestine. Donc les hommes voyagent avant même les textes.
Et on traduit très tôt, donc.
Et on traduit très tôt. C'est ça qui est important et qui est marquant, c'est que les traductions sont quasi contemporaines. Il faut bien comprendre que, pour cette période patristique, c'est-à-dire que les traductions sont effectivement quasiment contemporaines, les traductions en latin sont quasiment contemporaines des textes en grec. Quand Rufin, qui est un des principaux passeurs, qui est historien et traducteur, au tournant des 4e et 5e siècles, un des principaux passeurs entre cet Orient grec et l'Occident latin, entre l'Église antique et l'Église médiévale, va traduire, par exemple, l'histoire ecclésiastique d'Eusèbe de Césarée, quand Rufin traduit Basile, eh bien, il les traduit quelques dizaines d'années après que les textes ont été était écrit. Et ce sont des hommes qui vont se rencontrer. On le voit très bien avec Ruffin. Donc Ruffin, qui est formé à Rome, où il part ensuite pour l'Orient. Il se lie d'amitié avec Jérôme. Il se brouillera avec lui plus tard en prenant le parti d'Origène, accusé d'hérésie. Il se retire dans un premier temps, donc avant de partir en Orient, vers Aquilée. Donc, et en Orient, il part donc pour l'Égypte, donc dans l'Oadinatrun dont nous parlions à l'instant. Il y rencontre Macaire. Donc ce sont des hommes qui se rencontrent. Ce ne sont pas, on a souvent cette image un petit peu abstraite, c'est-à-dire qu'on pense au texte, on pense au titre, et on ne voit pas toujours les hommes qui sont derrière. Et Ruffin a rencontré Macaire, qui est un des pères du désert, un disciple d'Antoine. À Jérusalem, il va rencontrer Mélanie l'Ancienne, qu'il suit jusqu'à Jérusalem, où elle va fonder ce monastère double, c'est-à-dire un monastère mixte, hein, pour hommes et pour femmes sur le mont des Oliviers. Et Ruffin prend la direction de la partie masculine de ce monastère sur le mont des Oliviers, avant de revenir ensuite à Rome, où il va continuer son œuvre. Donc ce sont des hommes qui voyagent, qui se rencontrent, hommes et femmes, et qui vont traduire leurs quasi-contemporains. Et cette contemporanéité, on va la retrouver quasiment tout au long du Moyen-Âge. On y reviendra peut-être à la fin.
Tout à fait. Alors, il y a un livre aussi, comme j'ai dit tout à l'heure, un livre qui est le résultat des travaux d'un colloque qui a eu lieu il y a quelques années à Rome, je crois, c'est ça. Si vous voulez nous en dire juste un mot, et puis évidemment, il y a des contributions très riches venant de plusieurs chercheurs. Ce qui est très intéressant aussi, c'est qu'il y a des historiens de l'art et des philologues.
Exactement. Oui. C'est un programme donc de l'École française de Rome qui portait sur la réception des pères latins et des pères grecs. Le premier volet était consacré à Ambroise, donc dirigé par Stéphane Joanny et Patrick Boucheron. Et Stéphane Joanny était à l'époque directeur des études pour la section médiévale. Donc j'avais la chance d'être membre scientifique de l'école à ce moment-là. Et donc Stéphane a eu la grande générosité de me confier la partie grecque de ce programme quinquennal de l'école que j'ai pu donc co-diriger avec Annick Peters-Custeau et Bernadette Cabouret avec grand bonheur. Et effectivement, l'idée, nous avons eu deux rencontres à Rome, à l'école française, hein, Place Navone, était de précisément faire se rencontrer des historiens de l'art, des philologues pour croiser les approches autour des pères grecs. Et l'idée principale de ce livre est donc de travailler sur la réception et sur la construction de l'image des pères grecs. Il faut bien avoir à l'esprit que les pères grecs tels qu'on les reçoit dans l'Occident latin sont aussi le fruit d'une construction et notamment d'une adaptation. Nous parlions de Ruffin à l'instant, Ruffin est un bon exemple pour cela. Marie-Céline Isaiah, dans son article, montre bien les corrections que Ruffin va apporter à l'hyperassèse, jugée orgueilleuse des Grecs, qui vise, en gros, selon Ruffin, au progrès individuel, d'accord, avec une sorte de transposition chrétienne de la compétition athlétique, mais qui atteste aussi plus d'orgueil que d'humilité. Et dans l'idée de Ruffin, il va donc corriger l'histoire ecclésiastique d'Eusèbe, dont le texte grec présentait un monde monastique plus humble, plus fraternel, qui, selon lui, correspond mieux à l'édification des frères, des moines qui composent le monastère du Mont des Oliviers, donc c'est ce monastère mixte qu'il co-dirige en quelque sorte avec Mélanie l'Ancienne. Donc, une traduction, alors on dit toujours traducteur, que les traducteurs traîtres, enfin traducteurs traîtres, hein, traduttore, traditore, mais qu'il y a vraiment une sorte de falsification.
Il y a une interprétation.
Une interprétation.
Forcément,
voilà. Et l'interprétation, donc c'est vraiment une histoire des représentations. Comment l'Occident construit cet Orient grec. Donc il y a bien sûr des traductions, mais il y a aussi bien sûr une question de représentation et de construction.
Alors, le livre est en gros, enfin cette partie très patristique et chronologique, est divisée en trois parties. D'abord la réception, 4e, 5e siècle, puis l'appropriation par donc les Italiens, puisque c'est surtout en Italie où cela se passe, évidemment, avant que ça ne se diffuse en Europe occidentale. Puis, évidemment, il y a une partie très, très intéressante comme ça, les siècles mendiants du Moyen-Âge tardif et le philhellénisme humaniste. On arrive donc à la fin de cette période et c'est le début de la période moderne. Alors, en quelques mots, pourquoi cette division en trois parties? Enfin, quel est le critère?
Alors, un critère de clarté, hein, bien sûr, et puis un critère pour montrer l'évolution, hein, de cette construction. Pourquoi ? Parce que comme nous, ce qui nous intéressait, c'était la réception, la construction. Quel est le travail d'un historien ? Le travail d'un historien est de contextualiser, d'aller contre la tentation de l'essentialisation et de contextualiser. Et donc, l'idée d'adopter aussi un plan chronologique nous permettait de montrer que ces traductions, où les utilisations des pères grecs se faisaient à chaque fois dans des contextes bien particulier et correspondait effectivement à un certain nombre de buts qui expliquaient des inflexions dans l'utilisation de ces pères grecs. Donc c'est ce qui a fondé aussi l'approche chronologique de l'ouvrage.
Alors on fait un voyage dans le temps musical et évidemment ça correspond tout à fait au sujet de cette émission puisque c'est un texte musical romain, italien, mais qui est chanté en grec. C'est un extrait de ce CD très précieux fait par Marcel Pérez, chant de l'église de Rome, période byzantine, et c'est chanté par Lykourgos Angelopoulos. Et avec ce chant qui nous ramène à l'époque sur laquelle nous travaillons, et vous avez travaillé surtout, Camille, donc un Alléluia par Lykourgos Angelopoulos et l'ensemble Organum dirigé par Marcel Pérez, musique créée en Italie, composée en Italie, mais le texte est grec, voilà, pour parler des textes patristiques grecs qui sont présents en Italie, dans l'Italie chrétienne. Bon, d'ailleurs, quand on parle d'auteurs grecs, très souvent, c'est pas seulement chrétien, hein, il y a ça aussi. Mais évidemment, ici, pour nous, on se concentre sur la partie chrétienne. Alors, nous allons respecter l'ordre chronologique qui est celui du livre aussi, parce que l'émission ne permet pas d'aller trop loin. Si vous voulez bien prendre quelques exemples, il y a aussi quelques mots comme ça qui nous interpellent, par exemple, cette histoire de mendiant, qui serait donc quelque chose, si vous voulez, pour la diffusion de ces textes.
Alors effectivement, l'avènement des ordres mendiants a entraîné un intérêt renouvelé pour les pères grecs, notamment les pères du désert, on le comprend bien, notamment dans l'exigence de pauvreté radicale, le choix de la pauvreté des mendiants, particulièrement des franciscains. Une figure très importante pour ces traducteurs est celle d'Angelo Clareno, qui non seulement est un mendiant, mais fait partie d'un courant jugé déviant par l'ordre. Ce sont les spirituels qui tiennent donc à une observance particulière et notamment au respect de cette pauvreté radicale et donc qui se retrouvent en délicatesse avec l'ordre. Et Angelo Clareno va être contraint, après un premier séjour en Arménie, à un second exil en Grèce, d'abord sur un îlot du golfe de Corinthe, puis dans le nord de la Thessalie, et il apprend le grec. Donc, il ne part pas seul, il part avec plusieurs de ses compagnons, il apprend le grec, et il va sans doute débuter la traduction d'un texte extrêmement important et d'un auteur que nous avons sans doute tous en tête quand nous pensons au père grec, c'est Basile. Basile de Césarée, évêque de Cappadoce, et Clareno va...
Au 4e siècle, hein, très loin.
Oui, c'est très loin, effectivement, 10 siècles auparavant, et Clareno va entreprendre la traduction du grand Asceticon. Alors, on connaissait la traduction du petit Asceticon, des petits ascétiques, par Ruffin, dont nous parlions tout à l'heure, donc très peu de temps après, effectivement, Basile, et Clareno va traduire une autre version, en quelque sorte, le grand Asceticon, une version augmentée, certains disent qu'elle n'est pas forcément de Basile, mais enfin bon, peu importe. Donc il va traduire une autre version, en quelque sorte, du texte en partant d'un manuscrit qui était un manuscrit des météores. À la mort de Boniface VIII, il rentre d'exil, il rentre en Italie, il est d'abord à la cour d'Avignon auprès de Giacomo Colonna, qui va être son protecteur. Et à la mort de Giacomo Colonna, il trouve refuge à l'abbaye de Subiaco. C'est très intéressant, pourquoi ? Parce que l'abbaye de Subiaco, c'est la première abbaye fondée par Benoît. Et on retrouve, on va le voir, ce couple Basile-Benoît par rapport au père du monachisme oriental et occidental.
On sait qu'en Occident, la règle de Saint-Benoît est la règle fondamentale.
La règle fondamentale. Alors, j'en profite pour, je pense que tout le monde le sait ici, mais pour rappeler qu'en Orient, il n'y a pas de règle au sens occidental du terme. Chaque monastère va suivre effectivement des principes qui sont édictés par le fondateur et on n'a pas cette idée d'unification de la règle, comme avec la règle bénédictine en Occident. Nonobstant, donc Rareno va traduire ce grand asceticon de Basile et il achève sa traduction à l'abbaye de Subiaco, donc au monastère du Sacro Speco, autour de la Sainte Grotte dans laquelle Benoît aurait trouvé refuge en quittant Rome. Et donc ça veut dire qu'il avait probablement sous la main un manuscrit du grand asceticon qui à ce moment-là était en Italie et ce qui atteste d'une circulation aussi en Italie de ces manuscrits. Donc Clareno, qui est toujours un petit peu en délicatesse, notamment avec l'Inquisition, se retrouve dans cette abbaye, dans cette grande abbaye bénédictine, on est à 70 km de Rome, il y traduit le grand asceticon et on a toujours à Subiaco la traduction autographe du grand asceticon par Clareno. Et quand j'ai commencé à m'intéresser à ce texte, ça m'a fait immanquablement penser au nom de la rose. Pourquoi ? Parce que je suis arrivée à Subiaco par un autre manuscrit du début du grand schisme, écrit en 1388 par un dominicain qui conserve l'anonymat à Sienne. Et dans ce manuscrit, cet auteur cite trois noms qui tous renvoient à Subiaco. Et que veut-il faire dans ce texte ? Eh bien, il critique la monarchie pontificale, l'Église, malade de la monarchie pontificale. Et il va chercher le remède où ? En Orient, auprès notamment des écrits des Grecs et des Arméniens, et avec l'idée que Pierre, il critique notamment le pouvoir des clés, il dit que Pierre est co-apostolos, en reprenant l'idée grecque de Pierre comme étant le coryphée des apôtres, celui qui va exprimer avec sa bouche ce que tous les apôtres ont exprimé avec leur cœur. Et donc Subiaco, cette abbaye, qui est donc une grande abbaye bénédictine, la première fondée par Benoît, va avoir ce lien assez particulier avec l'Orient, autour d'un manuscrit un petit peu mystérieux du début du grand schisme, en lien aussi avec ce mouvement spirituel, qui puisqu'elle a servi de refuge à Clareno au début du XIVe siècle, contre les rigueurs de l'Inquisition, un petit peu comme au début du Nom de la Rose, quand Hubertin de Casale est exfiltré de cette abbaye bénédictine à l'arrivée de Bernardo Gui. On va parler là aussi de ce manuscrit qui tue, et de ce manuscrit effectivement assez mystérieux. Et c'est vraiment autour du Nom de la Rose qui m'avait beaucoup frappée adolescente, quand je l'avais lu, que j'ai bâti ce projet autour de Subiaco. Et donc Clareno va être un homme très important au début du XIVe pour la transmission de ce texte. Et quand ce dominicain de la fin du XIVe va composer son traité qui critique la monarchie pontificale, il le fait en lien avec des hommes qui sont liés à Subiaco, notamment Pierre Boyer. Je voudrais finir cette évocation peut-être avec Pierre Boyer, qui est un bénédictin, qui va composer à Subiaco, toujours au Sacro Speco, un commentaire de la règle de Benoît. Et dans son commentaire de la règle de Benoît, il cite énormément Basile. Et on a ce couple entre Benoît et Basile qui est très présent dans l'œuvre de Boyer et qui va être, alors, différemment, Basile est très présent aussi chez Clareno, mais différemment. Et notamment autour des questions de réforme et de gouvernance.
Merci. Donc toute cette réflexion autour du couple, si je puis dire, Basile et Benoît, les deux grands noms du monachisme, l'un côté Orient, l'autre du côté Occident, m'amène à penser que, en fait, moi je pense que votre colloque et votre réflexion vous y a conduit aussi, à penser que, en fait, les choses ne sont pas aussi compartimentées qu'on ne le pense. Et que, il y a des points de rencontre. Est-ce qu'il y a aussi des influences? Ça, on sait pas. Est-ce que la rencontre est purement formelle parce qu'il y a des textes de côté? Ou vous pensez qu'il y a eu influence également dans le fond?
Vous avez tout à fait raison. C'est-à-dire qu'il ne faut pas, cette expression de père grec et de père latin, finalement, nous induit en erreur et nous entraîne sur une fausse piste. C'est-à-dire l'idée, effectivement, d'une chrétienté d'Occident, d'une chrétienté d'Orient et d'une sorte de frontière hermétique entre les deux. Ce n'est absolument pas le cas. On a dit tout à l'heure que les hommes voyageaient, les hommes se connaissent. Ruffin rencontre Macaire. Les hommes se connaissent, les hommes parlent une langue qu'ils comprennent, ils se traduisent les uns les autres. Les hommes voyagent, les manuscrits voyagent et on est beaucoup plus dans l'idée d'une chrétienté méditerranéenne, si vous voulez, au départ, que d'une chrétienté d'Occident et d'Orient. Ces catégories d'Occident et d'Orient sont très largement des constructions, comme ces catégories de grec et de latin, et très probablement que, en tout cas pour les siècles patristiques, mais on le retrouve aussi avec les mendiants, on a beaucoup plus cette idée de fluidité des relations. Et cette question de fluidité des relations, je la retrouve, moi, particulièrement aussi à Jérusalem, où je travaille particulièrement, que ce soit aujourd'hui, hein, quand on, je rentre, j'étais à Jérusalem il y a encore quelques semaines, je repars samedi pour Jérusalem, j'y étais pour Pâques cette année, vous savez que cette année, les églises ont célébré ensemble selon le même calendrier à Jérusalem, c'est rare, et donc c'était pour moi assez extraordinaire, parce que c'était exactement comme ça que ça se passait à la période sur laquelle je travaille, à la période médiévale. Et ce qui ressort effectivement, c'est vraiment ça, c'est vraiment une fluidité des relations. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des moments de tension, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des conflits, mais il y a une fluidité des relations, et pas effectivement des chrétientés qui sont séparées. Influence sur le fond, bien évidemment, et aussi une circulation qui continue au-delà de la période patristique. On a parlé au départ de cette circulation des hommes et des textes à la période patristique. À la période de Clareno, à la fin du Moyen-Âge, je vous parlais de cet auteur dominicain qui conserve l'anonymat, qui critique la monarchie pontificale, eh bien, il s'inspire non seulement des textes patristiques, il s'inspire de Basile, mais il s'inspire aussi d'auteurs grecs, d'auteurs arméniens, qui sont ses contemporains et qui critiquent également cette prétention à l'universalité de Rome et le pouvoir de Pierre et la primauté pétrinienne. Donc cette contemporanéité et cette circulation des idées, on la retrouve tout au long du Moyen-Âge avec des latins, puisqu'il faut bien utiliser des catégories, qui vont se nourrir de cette pensée orientale pour construire leur propre réflexion sur la chrétienté, sur une chrétienté à l'échelle de la Méditerranée et non pas réduite à Rome.
Le temps est malheureusement trop court, l'heure tourne, donc nous sommes obligés d'interrompre, mais on peut toujours consulter cet ouvrage qui est savant, mais avec, comme je l'ai dit tout à l'heure, la contribution de plusieurs personnes spécialistes des divers sujets et des pères, justement, pour voir comment les pères grecs ont été lus en Italie grâce à des traductions et ont circulé, l'Italie et puis le reste aussi de l'Europe occidentale. Et Camille Rupetel, je vous remercie beaucoup. C'était la réception des pères grecs en Italie au Moyen-Âge du 5e au 15e siècle. Ainsi prend fin Orthodoxie, une émission sous l'égide de l'Assemblée des évêques orthodoxes de France proposée par Alexis Chrysostalis. Réalisation François Connac. Prise de son Cédric Châtelu. Vous pouvez réécouter et télécharger cette émission sur le site franceculture.fr ainsi que sur l'application Radio France. Et dans quelques instants, vous retrouverez Solae, le rendez-vous protestant avec Jean-Luc Gadreau.